Il a peut-être tué sa femme parce que il voulait refaire sa vie avec cette dame.
J'imagine assez aisément une dispute conjugale le matin du crime, alors que Karine, la belle-sœur, vient de quitter la maison.
C'est pas forcément simple, une séparation, etc. Il en a peut-être parlé avec elle le matin, la discussion a dégénéré, et puis voilà, ils en sont arrivés aux mains, il y avait un couteau, et puis voilà, ça finit par plusieurs coups et puis une mare de sang.
Ilfurt, petite commune de 2500 habitants dans le Haut-Rhin. C'est ici que vivent deux sœurs, Isabelle et Karine, et leur mari. Tous habitent dans cette maison bleue qu'ils appellent la maison du bonheur. Une maison bleue devenue au fil du temps la maison de l'horreur.
Autour de nous, tout le monde a peur.
Les gens se disent ça pourrait aussi nous arriver à nous.
Est-ce qu'ils ne nous manipulent pas depuis le début? Est-ce qu'ils ne nous cachent pas des choses?
On ne s'imagine pas dans les premières semaines que ça peut être lui. On ne peut pas s'imaginer ça.
Il est un peu séducteur, il est peut-être un peu trop pressant.
On sait qu'il ne faut pas se frotter à lui.
Nous sommes le jeudi 12 septembre 2013, il est 17h. Karine Baudin rentre de son travail lorsque sa mère l'appelle. Isabelle, sa sœur, n'est pas allée récupérer les enfants à l'école, comme elle le fait chaque jour.
Elle ne les a pas cherchés à l'école, elle les a oubliés.
J'ai dit, maman, attends,
Isabelle a oublié les enfants, c'est pas possible.
Karine appelle tout de suite son beau-frère, Eric Mosser. Elle veut savoir s'il a des nouvelles d'Isabelle.
Et il me dit oui, je sais. J'essaye aussi de l'appeler depuis midi, elle ne répond pas.
Karine se précipite alors chez elle.
Là, je vois Eric qui sort de son garage, comme s'il avait fait un marathon, complètement essoufflé, rouge, haletant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il se tient au chambranle de la porte du garage, comme s'il allait vomir, comme s'il allait vraiment paniquer. Il me dit, on a été cambriolé. Je criais haut et fort dehors, je veux voir ma sœur. Où est ma sœur? La voiture est là. Ma sœur doit être à la maison. Où est ma sœur? Que se passe-t-il avec ma sœur? Des pompiers arrivent vers moi, quelqu'un du SMUR que je connais. Elle me prend tout de suite dans les bras et elle me fait un signe de tête. Elle me dit non. Je dis quoi? Non, c'est pas Isabelle? Elle me dit si, mais c'est fini pour Isabelle.
Les gendarmes de la brigade d'Ilfurt inspectent alors la pièce dans laquelle se trouve la victime.
Ils font comme tout bon enquêteur, c'est-à-dire on essaie de ne pas polluer la scène. On constate effectivement que Isabelle Mosser est morte.
C'est une scène de crime particulièrement violente. Elle se trouve donc dans la pièce principale, elle baigne dans son sang.
Les gendarmes font le tour de la maison. Ils voient des affaires éparpillées dans toutes les pièces. Tout laisse penser que le ou les meurtriers d'Isabelle cherchaient quelque chose.
Ils constatent qu'il y a un désordre. On a visiblement fouillé, des affaires ont été déplacées. L'orientation de l'enquête, au début, c'est une orientation vers un cambriolage, et cambriolage qui a mal tourné, puisque cambriolage qui se serait terminé par un homicide.
Et puis, il y a un détail qui attire l'attention des gendarmes.
Sur un encadrement de porte, il y a effectivement une trace de lutte. Oui. Il y a eu certainement, à un moment-là, un corps à corps.
Alors, qu'a-t-il pu se passer dans cette maison? Qui s'en est pris à Isabelle Mosser? Pour les gendarmes, c'est le début d'une enquête difficile. D'autant plus que la victime est une mère de famille heureuse et apparemment sans histoire. Isabelle Mosser a 41 ans. Elle est mariée à Eric, chauffagiste de métier, depuis plus de 15 ans. Le couple a une petite fille de 6 ans. Et de la vie de tous, cette mère au foyer était une femme certes réservée, mais qui incarnait la bienveillance.
C'était pas une personne qui allait au contact. Donc, il fallait aller vers elle pour pouvoir discuter avec elle. Et là, c'est sa gentillesse, sa douceur qui ressortait, sa simplicité.
Isabelle était toujours très introvertie, très timide. Je l'ai toujours trouvée très joviale, très gentille, très accueillante.
C'était gentillesse, douceur, voilà, c'était... Je ne pouvais pas lui en vouloir, Isabelle. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Jamais, voilà, jamais un mot au-dessus de l'autre. On peut pas se fâcher avec Isabelle. C'était impossible. Impossible.
Éric Mosser, le mari de la victime, est lui aussi un homme bien sous tout rapport, comme l'on dit.
Le mari est travailleur, c'est un chef d'entreprise, il est chauffagiste, donc il travaille beaucoup sur les chantiers. A priori, c'est une famille sans problème, qui a l'air unie. Il n'y a personne qui, dans l'enquête, a dit « Ah, mais finalement, il y a des choses qui n'allaient pas ».
Aux yeux de leurs proches, le couple Mosser vivait en harmonie, malgré toutefois des personnalités opposées.
Éric était le feu et Isabelle l'eau. Éric, quelqu'un de très avenant, de très ouvert, de marrant, de quelqu'un qui... Voilà, il passait la porte, on le voyait, on l'entendait. Et Isabelle qui suivait derrière, la blanche colombe, qui ne disait rien, qui... Voilà, mon mari est là, ça suffit.
Et ma foi, Isabelle était heureuse.
Quand ils étaient ensemble tous les deux, moi j'ai trouvé que c'était le couple parfait.
Le couple Mosser partage son bonheur avec la sœur d'Isabelle, Karine, et son mari Ludovic. En 2001, tous les quatre décident de construire cette grande maison pour y vivre ensemble. La bâtisse est coupée en deux parties et communique seulement par la cave.
Il faut vraiment voir la configuration des lieux. Il y a eu un projet de vie à deux couples. Donc les Mosser et les Baudin.
Chaque couple avait un enfant, à peu près le même âge d'ailleurs. Bon. Et il y avait une piscine commune, il y avait un jardin commun. Donc on vivait, je dirais, vraiment, si j'ose dire, les uns sur les autres. Bon. Avec une promiscuité qui est quand même, disons, tout à fait surprenante.
Nous, on avait décidé de tracer un grand bout de chemin ensemble, hein, entre guillemets, de construire un projet de vie, une maison jumelée ensemble. On était tous les quatre liés par ce projet. Oui, c'était bien. C'était bien.
Dans cette maison du bonheur, un homme a une place prédominante. C'est Éric Mosser.
Moi, Éric, pour moi, c'est un grand frère.
Éric, dans la famille, eh ben c'est le pilier de la famille, il protège tout le monde. On sait qu'il ne faut pas se frotter à lui, mais quand on fait partie de sa famille, on se dit, voilà, très bien.
Alors, à la suite de la mort brutale d'Isabelle Mosser, Karine et Ludovic s'inquiètent des réactions de leur beau-frère. Car l'homme est connu pour être très impulsif.
Mon mari et moi sommes très rapidement allés voir les gendarmes en leur disant « Attention, on vient de tuer l'épouse à Éric. Éric est un justicier dans la ville. Éric va faire le travail avant vous. Éric va trouver le ou les meurtriers. Faites votre travail, surveillez-le, parce que lui va faire le travail. »
Seulement dans les heures qui suivent le décès de son épouse, Éric Mosser semble totalement anéanti par la mort de sa femme. Afin d'en savoir davantage sur les circonstances du meurtre, le corps d'Isabelle Mosser est transporté à l'Institut médico-légal de Strasbourg pour y être autopsié. Et le légiste semble étonné par le mode opératoire du crime.
Elle a été lardée de coups de couteau, 8 coups de couteau, un couteau a priori, un couteau de cuisine avec une lame longue de 15 cm. La femme a été poignardée à 7 reprises dans le dos et une fois au niveau du thorax.
Le médecin légiste constate que l'auteur a fait des sortes de va-et-vient à l'intérieur de la plaie sans ressortir son couteau. Donc c'est assez particulier comme mode opératoire criminel.
C'est un saignement important au niveau des poumons qui a entraîné l'arrêt cardiaque, tout simplement.
Il sera établi par le médecin légiste que l'agonie d'Isabelle Mosser a duré environ 4 ou 5 minutes.
Et ce n'est pas tout. le médecin légiste révèle que la victime ne s'est pas défendue. Elle aurait donc été poignardée par surprise. Mais l'autopsie laisse tout de même une zone d'ombre sur un élément essentiel. Car le médecin légiste ne parvient pas à déterminer précisément l'heure de la mort. Selon son rapport, le meurtre a pu se dérouler entre 7h40 et 14h12.
Le moment où la température du corps a été prise et les conditions dans lesquelles cette température a été prise ne permet pas de donner une heure précise. Ça ne donne qu'une fourchette. Donc c'est entre le moment où quelqu'un l'a vue vivante et le début ou le milieu de l'après-midi où elle a été retrouvée. Donc il n'est pas possible de dater plus précisément.
Sans heure certaine de la mort, l'enquête s'annonce compliquée. Les gendarmes décident alors de creuser l'emploi du temps de la victime. Les enquêteurs d'Ilfurth tentent de retracer la journée d'Isabelle Mosser, le jour du drame, le 12 septembre 2013. Karine Baudin leur explique qu'elle a vu sa sœur le matin même. Il était 7h45, dit-elle.
Tout avait l'air normal. Eric était déjà habillé pour le boulot, donc en tenue de travail. Isabelle était en tenue d'intérieur, en pyjama, disons. Oui, tout était normal.
Karine quitte la maison vers 7h45. Eric Mosser, lui, qui est chauffagiste, partira un peu plus tard.
Le mari ne va quitter le domicile que 30 minutes plus tard, 8h15.
Sachant qu'il avait un rendez-vous professionnel à Danemarie, qui est situé à environ 18 km du village.
Isabelle Mosser, quant à elle, est femme au foyer. Depuis peu, elle est à la recherche d'un emploi de vendeuse. Et ce jour-là, une fois n'est pas coutume, elle avait des rendez-vous.
Ce jour-là, Isabelle avait prévu d'aller déposer 2 curriculum vitae. Donc effectivement, ce jour-là, elle devait se préparer rapidement le matin pour partir, se présenter à deux endroits différents. Elle devait le faire dans la matinée puisqu'il fallait qu'elle récupère les enfants à midi.
Seulement, tout porte à croire qu'Isabelle, la victime, n'est jamais allée à son rendez-vous, notamment sa tenue vestimentaire.
Lorsqu'on découvre le corps, Isabelle Mosser est habillée d'un pantalon de jogging et d'un haut de pyjama.
On sait par ses proches, par son mari, que c'était quelqu'un de très coquette, qui ne serait jamais sortie en training, qui s'apprêtait toujours lorsqu'elle elle sortait même pour faire les courses. Hein. Alors, elle ne se mettait pas forcément sur son 31. En tout cas, elle était toujours très, très coquette.
Même pas dans le jardin, elle serait sortie comme ça. C'était vraiment la tenue qu'elle enfilait au lever, le temps de préparer le petit déjeuner avant de prendre sa douche et voilà. Non, même pas sur le perron. Non.
Donc, le jour du crime, après 8h15, heure du départ de son mari, personne n'a eu des nouvelles d'Isabelle.
On sait qu'un des premiers appels qui n'a pas eu de réponse, c'est celui de la mère d'Isabelle Mosser, à 9h08. Elle ne décroche pas. Elle laisse un message, mais ça ne décroche pas.
À 11h59 et 12h01, le mari d'Isabelle l'appelle également. Il lui laisse un message sur son répondeur. Isabelle Mosser ne l'écoutera jamais. Mais alors, qui est venu tuer Isabelle Mosser en ce début de matinée de septembre à Ilfurth? L'enquête ne fait que commencer. À ce stade, toutes les pistes doivent être envisagées. Et les enquêteurs vont commencer par creuser une hypothèse en particulier, celle du cambriolage qui aurait mal tourné.
C'est assez particulier, c'est-à-dire on a l'impression que ça a été cambriolé, mais ce n'est pas vraiment un cambriolage, c'est-à-dire c'est un cambriolage très propre.
Les photos, elles sont assez parlantes. Il y a un désordre, mais ce n'est pas non plus un désordre monstrueux. Quand on fait l'inventaire de ce qui est susceptible d'intéresser des cambrioleurs, on se rend compte que ce qui devrait les intéresser est toujours là.
Quelque chose ne colle pas. Le mari de la victime, Éric Mosser, déclare qu'une enveloppe avec 500 euros en liquide a disparu. Et chez les Baudin, la sœur de la victime explique que rien ne manque. Bizarre.
Rien n'a été volé, rien n'a été cassé, rien. Non, non. Mon mari avait même de l'argent sur son bureau qui n'a pas disparu. Les portables étaient là. Non, non, rien n'a été volé, rien du tout.
Sur mon bureau, j'ai des dossiers qui sont par terre. Devant le buffet du séjour, il y a des serviettes en papier qui sont par terre, des placards ouverts. À la cuisine, il y a un sac de farine qui est par terre, des placards ouverts, voilà. Les placards à chaussures qui sont ouverts. Mais rien de plus. Tout ça pour ça.
C'est évident. Cet état des lieux ne colle pas avec un cambriolage qui aurait mal tourné.
Les choses sont restées un petit peu comme figées. C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment, quand on a l'œil habitué à des scènes de cambriolage, que c'est un cambriolage simulé.
Quand tout ce qui intéresse les cambrioleurs reste là, on se dit que c'est peut-être pas un cambriolage. Si c'est peut-être pas un cambriolage, ça doit être une mise en scène.
Cela donne à penser que le meurtrier veut égarer les pistes, enfin veut brouiller les pistes.
Pour les enquêteurs, il faut chercher ailleurs. Le seul espoir de retrouver le meurtrier est de l'identifier grâce aux traces qu'il a pu laisser dans la maison.
L'enquête a été, je crois, exemplaire. C'est-à-dire, dès le départ, on a fait appel aux éléments de la section de recherche de Strasbourg. Plus de 300 échantillons ont été prélevés sur la scène, ce qui est assez énorme. Et tous les échantillons ont été envoyés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois, ce qui est assez rare pour ce type d'enquête. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sur ce nombre de prélèvements qui est assez important, on n'a rien trouvé.
Les expertises génétiques ne vont rien donner. On ne retrouve dans la maison que l'ADN des membres de la famille Mosser.
Sur les vêtements de la victime, il n'y a que l'ADN de la victime et de son mari. Et dans l'ensemble de l'habitation, on ne retrouvera pas d'autres ADN.
Seule une empreinte génétique retient toute l'attention des gendarmes.
Au sous-sol, sur une poignée, il y a une trace ADN qui n'est pas identifiée, qui ne correspond ni à l'entourage proche de la victime, l'entourage familial, ni à une contamination par enquête, etc. Donc c'est une trace non identifiée, une trace d'ADN, effectivement.
Ils ont fait des prélèvements sur tout, sur les objets, sur les meubles. Rien ne permet de relier cet ADN étranger sur un objet laissé sur cette scène.
Et si cet ADN était celui du meurtrier ?
On n'a pas la démonstration du fait qu'il y aurait une relation de cause à effet entre cette trace génétique non identifiée et la réalisation du crime. Ce sont des spéculations intellectuelles sans aucun intérêt.
C'est dommage de ne pas pouvoir identifier cet ADN et ça laisse un sentiment d'une enquête incomplète.
Le mystère reste entier, laissant le village d'Ilfurt et ses 2500 habitants dans l'angoisse. Tous craignent que le meurtrier réapparaisse et sévisse à nouveau.
Les gens ont commencé à avoir plus peur des cambrioleurs éventuels.
On n'est pas habitué à ça dans le village. Tout le monde a peur, tout le monde est très vigilant, installe des alarmes, fait très attention derrière soi, de bien fermer sa porte, ainsi de suite. Voilà.
Isabelle Mosser et Madame Tout-le-Monde. Et sa disparition dans ces circonstances pour l'instant inconnues crée une sorte de psychose dans le quartier parce que les gens se disent ça pourrait aussi nous arriver à nous.
Mais c'est en entendant les proches de la victime que les gendarmes vont peut-être trouver un élément de réponse. Car Karine Baudin s'est souvenue d'un événement survenu 6 mois plus tôt qui peut laisser penser que sa sœur a été la victime d'une vengeance machiavélique. Entendue dans les locaux de la gendarmerie, Karine Baudin explique qu'elle a été, bien malgré elle, la spectatrice d'un cambriolage qui a eu lieu en face de chez elle.
Deux individus se promenaient dans la rue. Je les ai vus dès le matin au lever. Et je voyais que le regard insistait beaucoup sur la maison juste en face de chez nous. Et quelques minutes après, j'ai entendu sonner l'alarme chez la voisine.
Karine Baudin alerte immédiatement les gendarmes, qui interpellent quelques minutes plus tard deux hommes en flagrant délit.
Les gendarmes sont revenus avec les deux individus et j'ai dû confirmer leur identité, donc effectivement, ils m'ont vue.
Les deux hommes se seraient-ils vengés de cette dénonciation en retournant 6 mois plus tard chez celle qui les avait dénoncés?
On s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la mort d'Isabelle Moser et ces deux Roumains qui ont été condamnés?
Donc on a cherché à savoir ce que sont devenus ces gens et est-ce que éventuellement on pouvait les localiser sur la commune d'Ilfurt.
Et justement, un élément peut relier ces deux hommes au drame, un indice capital qui enfin va faire avancer l'enquête.
Avant de commettre leur cambriolage, ils avaient passé une nuit dans un hôtel qui avait été réglé par une carte bleue. Or, le 11 septembre 2013, soit la veille de la mort d'Isabelle Moser, la même carte bleue a servi à payer une chambre d'hôtel dans un petit village qui est situé à une vingtaine de kilomètres d'Ilfurt.
Seulement, ces investigations ne mènent à rien. Car l'enquête va permettre de révéler que la carte bancaire en question aurait été utilisée par un autre homme de la bande. Et surtout, l'un de ces deux hommes était en détention en Allemagne au moment du meurtre. L'enquête est dans l'impasse, jusqu'à ce qu'un nouveau suspect surgisse dans l'esprit des gendarmes. Une amie d'Isabelle Moser va rapporter que la victime avait eu un rapport compliqué avec un homme en particulier. Un certain Jean-Marc, c'est un ami d'Éric Moser.
Un ami qui, effectivement, n'est pas en conflit avec Isabelle, mais on va dire qu'il ne s'aimait pas trop. C'est quelqu'un qui fréquentait le domicile parce que c'est l'ami du mari, mais Isabelle n'a pas d'atome crochu avec lui.
C'était un ami de la famille, ami d'Éric avant tout, mais voilà, Isabelle respectait parce que c'était l'ami d'Éric et Isabelle respectait Éric.
Alors, ce Jean-Marc aurait-il pu avoir un comportement inapproprié à l'encontre d'Isabelle Moser? Ce n'est pas impossible, et voilà pourquoi.
Il est un peu séducteur, il est peut-être un peu trop pressant, un peu lourd pour le dire simplement, et c'est pas son style d'homme. Elle apprécie pas vraiment sa compagnie.
Lui avait des conquêtes, aimait les femmes, il le disait, voilà, il était ouvert. Ce n'était pas du tout le style d'homme que ma sœur appréciait.
Oui, Isabelle ne l'appréciait pas forcément, mais bon, la porte était ouverte quand Éric était là.
Les gendarmes vont vérifier l'alibi de Jean-Marc le jour du crime. Un alibi qui aujourd'hui encore pose question. Mais les enquêteurs vont vite abandonner cette piste, car un nouvel élément va venir perturber toute leur certitude. Quatre semaines seulement après le meurtre d'Isabelle Moser, son mari, Éric, fait une étrange découverte en triant son courrier devant sa belle-sœur, Karine.
Il était en train d'ouvrir son courrier et là, il nous met une enveloppe sous le nez. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Lisez ça. Et il nous fait lire ce courrier.
Cette lettre qui bouleverse le mari d'Isabelle Moser, la voici. Elle est truffée de fautes d'orthographe. L'auteur parle d'Isabelle Belly Schantz, le surnom de la victime.
Cette belle grande blonde, je l'ai accostée sur des parkings. Elle m'a dénigrée. Son riche mari est parti toute la journée. Nous aurions eu le temps de faire l'amour. Je ne suis ni con ni fou. Son mari ne la baisera plus.
Le scripteur s'accuse du meurtre d'Isabelle Moser. Il a l'air de dire en gros qu'il lui a fait des avances, qu'elle les a refusées et que c'est pour ça qu'elle est morte.
Face à cette lettre, Éric Moser semble pour le moins perturbé.
Il est touché par... par cet élément troublant qui arrive là au milieu. Qu'est-ce que c'est que ça encore en plus? Qu'est-ce qu'on vient remuer? Qu'est-ce qu'on vient essayer de faire comprendre? Il est dans un état d'incompréhension.
Le veuf cherche immédiatement à identifier ce corbeau.
Il a relu ce courrier 5, 10, 15 fois. Tout de suite, il a dit « Cette phrase, je la connais. Cette phrase, c'est quelqu'un qui l'a dit régulièrement, mais je ne sais pas qui. » Et il me répétait la phrase. Et c'est moi qui lui dis « Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui dit tout le temps cette phrase. »
« Je suis ni con ni fou. » C'est une phrase que Bernard, un voisin des Baudin et des Mossères, dit très souvent.
C'était une relation de voisinage. Ce voisin qui aimait bien voir Isabelle en maillot de bain, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était douce, qui lui faisait ressentir. C'est quelqu'un qu'Isabelle n'appréciait pas plus que ça, mais on avait de très bonnes relations de voisinage, mais pas d'amitié.
L'emploi du temps de cette personne a été clairement passé au crible. On ne laisse rien passer, on ne laisse pas de suspicion. On va regarder son emploi du temps, on va regarder les SMS, on va regarder les mails. On va tout exploiter, on se rend compte qu'il n'y a strictement rien. Et cette porte-là se ferme également.
Alors, qui est l'auteur de cette lettre? Pour confondre le corbeau, le juge d'instruction ordonne une expertise graphologique. Les écritures des membres de la famille, des amis et des voisins de la victime sont comparées à celles du corbeau.
C'est franchement l'écriture de personne. Et l'expert dit de manière claire, il n'y a pas d'évidence pour dire c'est l'écriture de un tel ou de un tel.
Et sur cette lettre, on ne retrouvera que l'ADN du mari, Éric Mossère.
Cette lettre du corbeau pose question parce qu'on ne trouve aucun ADN hormis l'ADN du mari, ce qui est logique puisque c'est lui qui est censé ouvrir la lettre.
Là, en l'occurrence, ça ne fait pas avancer grand-chose, ça complique un peu tout. On se pose beaucoup plus de questions qu'on a de réponses.
Des questions, la sœur de la victime s'en pose aussi beaucoup. D'autant plus que depuis le meurtre d'Isabelle, ses relations avec son beau-frère, Éric, se sont brutalement envenimées. En cause, le comportement du veuf, qui semble s'être un peu trop vite remis du décès de son épouse.
Après le décès d'Isabelle, tout a changé. Éric est venu nous dire que la vie doit continuer, qu'il doit aller de l'avant, qu'il a rencontré quelqu'un qu'il est persuadé que c'est Isabelle qui lui a mis sur son chemin, une personne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Isabelle, la même chevelure blonde, la même finesse qu'Isabelle, la même longueur de jambes qu'Isabelle, le même style de femme qu'Isabelle.
Incroyable. À peine quelques semaines après la mort de son épouse, Éric Mossère s'est mis en couple avec une nouvelle femme. Et comble du cynisme, le veuf n'a pas déménagé.
Cette femme a pris la place d'Isabelle. À la maison, dans le lit d'Isabelle, dans la cuisine d'Isabelle, sur notre terrasse, dans notre piscine commune, il nous l'a imposée. Éric nous a fait comprendre qu'Isabelle ne reviendra pas, qu'elle est morte et enterrée, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut vivre et qu'ils doivent accepter cette nouvelle femme. C'est pas le Éric qu'on connaissait, c'est pas le Éric avec qui on a vécu pendant 10 ans. C'était pas le mari de ma sœur. C'est une nouvelle personne, quelqu'un de froid, d'imposant, de mesquin.
Dans les semaines qui ont suivi le crime, Éric Mossère a un comportement assez déconcertant. Il paraît totalement peu concerné par le drame. Il paraît non affecté. Et le fait de repartir rapidement dans l'existence avec une nouvelle conquête, avouez que c'est quand même troublant.
Les gendarmes s'intéressent de très près à cette nouvelle facette de la personnalité du veuf. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme cachait bien son jeu. Et cela, depuis plusieurs dizaines d'années.
On se rend compte que Éric Mossère, il a une double, une triple, voire plus, vie, parce que il fréquente d'autres femmes.
Il avait sa femme, mais clairement, il avait des maîtresses. Pas une maîtresse, mais plusieurs maîtresses.
Le mari idéal menait donc une double vie depuis des années. une double vie qu'il avait parfaitement organisée.
Il voyait de manière assez régulière ses maîtresses, il organisait tout autour de ça. Il imposait des emplois du temps à ses maîtresses, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de l'appeler en dehors des heures de travail. Il en voyait une le lundi, il pouvait en voir d'autres le soir, il pouvait partir avec certaines de ses maîtresses le week-end. Tout était très organisé.
Les enquêteurs, stupéfaits, découvrent qu'Éric Moser est en réalité un homme volage. Qui plus est, parmi ses conquêtes, une femme semble tenir la corde. C'est en quelque sorte sa préférée. Elle s'appelle Karine.
Pour Éric Moser, il ne s'agit pas simplement d'une maîtresse de passage, mais il s'agit de quelqu'un à qui il est attaché profondément, et il s'agit de quelqu'un avec qui Éric Moser voudrait bâtir quelque chose de stable et de solide.
C'est un peu la préférée. Et elle a un statut à part des autres.
Entendue par les gendarmes, Karine leur parle de son histoire avec Éric Moser.
Alors c'est un couple qui est un peu chaotique, c'est-à-dire on est ensemble, on se sépare souvent à l'initiative de la femme. Éric revient toujours, il trouve les arguments, il arrive à la rattraper, ils se remettent ensemble.
La jeune femme raconte aux enquêteurs qu'elle s'est disputée avec son amant il y a peu de temps. D'ailleurs, elle se souvient bien de la date. C'était le 11 septembre 2013, la veille de la mort d'Isabelle Moser.
Pendant cette dispute qui a été relativement violente, eh bien, la jeune femme donc lui dit « Maintenant, ça suffit, tu m'as promis 36 000 fois de mettre fin par un divorce à ton mariage, tu me promènes en bateau, tu ne tiens pas tes engagements, tu ne fais pas ce que tu m'as promis de faire, j'en ai par-dessus la tête, maintenant fini, terminé, rupture. »
Donc c'est un élément, lorsque l'épouse est retrouvée malheureusement morte le lendemain, qui interpelle.
Ça renforce ce côté un petit peu ambivalent d'Éric Moser à se demander, mais est-ce qu'il ne nous manipule pas depuis le début? Est-ce qu'il ne nous cache pas des choses? Ça pose question.
Alors tout naturellement, les gendarmes se posent une question. Éric Moser aurait-il pu tuer sa femme suite à cette dispute avec Karine, sa maîtresse?
Il a peut-être tué sa femme parce que il voulait refaire sa vie avec cette dame.
J'imagine assez aisément une dispute conjugale le matin du crime, alors que Karine, la belle-sœur, vient de quitter la maison.
C'est pas forcément simple, une séparation, etc. Il en a peut-être parlé avec elle le matin, la discussion a dégénéré, et puis voilà, ils en sont arrivés aux mains, il y avait un couteau, et puis voilà, ça finit par plusieurs coups et puis une mare de sang.
Et ensuite, comme il est quand même intelligent et rusé, il va organiser donc ce simulacre de cambriolage.
Pour les enquêteurs, il est urgent de repasser au crible l'emploi du temps d'Éric Moser, le jour du drame.
Monsieur Moser dit en substance qu'il quitte le domicile conjugal vers 8h15. Il y a d'ailleurs un témoin qui va le voir dans son véhicule, pas très loin du domicile conjugal, en train de partir. Il dit qu'il a des visites à faire en tant que chauffagiste.
Le premier rendez-vous d'Éric Moser se situe à Danemarie, à 13 km d'Ilfurt.
Quand il est entendu au début, il dit « Mais pas de problème, j'ai mon emploi du temps, voyez, j'ai mes rendez-vous, vous pouvez vérifier tout ça, je suis arrivé à 8h30 chez telle personne, etc. »
On va interroger cette cliente, Adèle-Marie, qui dit « Non, il arrive en retard. »
Car ce matin-là, Éric Moser n'arrive qu'à 9h05 chez sa cliente.
Donc on se pose naturellement des questions. Pourquoi est-ce qu'il arrive en retard à son rendez-vous?
Les enquêteurs calculent alors la durée du trajet d'Éric Moser entre son domicile et celui de sa cliente.
Combien de temps il faut pour aller d'Ilfurt à Danemarie en temps normal, hein? On peut dire 18-20. Il faut grosso modo autour de 20 minutes.
On n'est pas sur des autoroutes, on est sur des petites routes un peu sinueuses. Même s'il y a 18 km entre Ilfurt et Danemarie, on ne peut pas mettre moins de 20 minutes.
Seulement voilà. Au moment du meurtre, il y a des travaux sur cette route. Les gendarmes en tiennent compte dans leurs calculs.
Ça n'a pas pu le retarder dans les proportions qui ont été indiquées par la première cliente de la matinée.
On arrive à 21 minutes, 22 minutes maximum.
Éric Mosser aurait donc dû arriver au plus tard vers 8h40 chez sa cliente. Or, il n'y est arrivé qu'à 9h05.
Il y a un trou, clairement, de 20 minutes. Et ce trou, on ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas l'expliquer. Et là, ça ouvre la porte à tout.
Que se passe-t-il pendant cette demi-heure ? Que s'est-il passé ? Qu'a-t-il fait ou que n'a-t-il pas fait ? Donc voilà les questions qui interrogent ou qui se posent, n'est-ce pas, aux enquêteurs à ce stade de l'enquête.
Ça peut laisser le temps de faire des choses. Ça peut laisser le temps de nettoyer la scène, de se laver, de faire disparaître l'arme du crime. Mais ça, c'est des hypothèses. Je veux dire, ça, il faut encore le prouver.
Pour la première fois, les gendarmes ont le sentiment d'être sur la bonne piste.
Je crois que c'est un ensemble de petites choses qui, mises bout à bout, font que les enquêteurs ont dit « ça ne peut être que lui ».
C'est vraiment l'entonnoir. On a tiré très large et ça s'est rétréci jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une personne. Et c'est Éric Mosser.
Éric Mosser devient désormais le suspect numéro 1. Le 18 juin 2014, 9 mois après le meurtre d'Isabelle Mosser, son mari est placé en garde à vue. Il est à nouveau entendu sur son emploi du temps le jour du drame.
Lui, il explique qu'il a préparé le matin, il a préparé sa camionnette, en sachant que tout bon artisan a toutes ses pièces et caisses à outils, c'est déjà dans la voiture. Je vois pas, on ne passe pas 40 minutes à préparer sa camionnette.
À nouveau interrogé sur la durée de son trajet, le chauffagiste change quelque peu sa version des faits.
Et quand il est placé en garde à vue, qu'il est mis en examen, il dit plus la même chose. Il dit « Ah mais, y a un problème, y avait des travaux, je suis arrivé en retard au premier rendez-vous, etc. »
Et il met en cause des travaux sur la route en disant « Non, j'ai pas mis 20 minutes, j'ai mis 40 minutes. »
Selon le suspect, son retard serait donc seulement dû à la circulation. Car Éric Mosser le dit haut et fort, il n'a rien à voir avec le meurtre de son épouse.
Il a toujours maintenu sa position, il n'a rien à voir avec ce meurtre, il aimait sa femme, et ça n'a rien à voir avec ses histoires d'amour extra-conjugal.
Il a décidé de donner une version, de nier toute participation à ce crime, et il va tenir, solide comme le roc, pendant 48 heures, contre vents et marées. Même s'il y a un certain nombre d'éléments contre lui, il ne lâchera rien.
L'enquêteur dit « J'ai senti qu'on était peut-être pas loin d'apprendre quelque chose. Que parfois, il y a des moments humains dans une garde à vue. Ça, les policiers, les gendarmes le savent mieux que personne. Et il était sur le point de leur dire quelque chose. Mais il n'a rien dit. Il a toujours dit qu'il était innocent. »
Si elle avait été choquée de voir Éric Mosser, très vite, refaire sa vie après la mort d'Isabelle, jamais Karine Baudin n'aurait imaginé qu'il soit le meurtrier de sa sœur. Alors quand son avocat lui apprend l'interpellation de son beau-frère, elle tombe des nues.
Il me dit « Éric Mosser a été mis en garde à vue aujourd'hui ». Je lui réponds « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Mais Madame Baudin, pour le meurtre de votre sœur ?» Je dis « Oui, mais pourquoi lui, il est en garde à vue ?» J'ai pas compris. Je ne le soupçonnais pas. Et il me répond « Mais il est soupçonné d'avoir tué votre sœur. » J'ai dit « Pardon ?» Puis j'ai raccroché. J'ai hurlé, j'ai pleuré. J'ai dit « C'est pas possible. C'est pas possible. Je venais prendre conscience de quelque chose. De... » Je dis « Non, jamais je ne l'ai soupçonné. Jamais. Jusqu'à ce jour. »
Quand on a vécu 20 ans avec lui et qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, les 4, les 6 ensemble, on ne s'imagine pas que ça peut être lui. On ne peut pas s'imaginer ça.
Le 20 juin 2014, après 48 heures de garde à vue, Éric Mosser est présenté au juge d'instruction qui lui notifie sa mise en examen pour homicide volontaire.
Dans cette affaire, ce qui interpelle, c'est qu'on n'a pas de preuves absolues. On n'a que des petits morceaux d'indices qui font que ça ne peut être que lui. Ce n'est pas une certitude.
Et sauf qu'on n'a pas ses aveux et on n'a pas une preuve flagrante, on n'a pas, je sais pas, le sang de la victime sur son pantalon ou quelque chose comme ça.
Sans aveu ni preuve matérielle, tout va reposer sur un unique détail, l'alibi d'Éric Mosser.
Tout va se jouer sur la démonstration de ce qui a pu se passer ce matin-là. Il y a un trou dans son emploi du temps de 20 minutes. Est-ce que ces 20 minutes ont été nécessaires et suffisantes pour commettre ce meurtre? Ce sera à la cour de le démontrer.
13 mars 2017. 4 ans après le meurtre d'Isabelle Mosser, le procès de son mari s'ouvre devant la cour d'assises du Haut-Rhin, à Colmar. C'est la première fois depuis 3 ans que Karine Baudin et son mari se retrouvent face à celui qu'ils considéraient comme le pilier de leur famille.
Le fait de revoir Éric à Colmar, le premier jour a été très difficile. Premier jour, j'ai pas pu le regarder. Et au fur et à mesure d'apprendre qui il était, ce petit homme, cette petite personne, j'en ai eu le dégoût. Je le fixais régulièrement. Je le regardais droit dans les yeux. Et c'est lui qui ne tenait plus mon regard. Tous ces mensonges, toute cette trahison, il a menti à tout le monde. Il a trahi tout le monde. On l'appréciait tellement, quelqu'un qu'on a tous tellement aimé. Comment a-t-il pu nous faire ça?
Et chose incroyable, au cours de ce procès, Karine Baudin s'aperçoit que l'arme du crime provenait certainement de la cuisine de sa sœur.
On nous a passé des photos d'intérieur de cuisine chez ma sœur et chez Éric Mosser. On a effectivement remarqué qu'un couteau manquant avait été remplacé dans la cuisine des Mosser par un petit couteau de broutille qui n'avait rien à faire ici.
Ce petit couteau, le voici, avec un manche jaune. Selon Karine, il aurait été placé sur ce socle pour remplacer le couteau en inox qui aurait servi au crime. Face au juré, Éric Mosser clame son innocence, mais les auditions de toutes ses maîtresses ne jouent pas pour lui.
Il est évident que le défilé très instructif des maîtresses, il y en avait d'ailleurs d'autres, on aurait encore pu allonger la liste, eh bien a été un élément d'appréciation dans l'esprit des jurés.
Le fait que ce soit un personnage qui ait beaucoup menti, qui ait cette double, cette triple, cette quadruple vie, ça peut poser question, ça peut choquer le jury de se dire mais pourquoi il ne l'a pas quitté plus tôt si effectivement il ne l'aimait plus. Mais lui, d'un autre côté, il dit « J'ai toujours aimé ma femme, je l'aime encore. » C'est un peu compliqué.
Le 18 mars 2017, au terme de 5 jours d'audience, Éric Mosser est condamné à 20 ans de prison. L'homme fait immédiatement appel. 1 an plus tard, le 25 juin 2018, le procès en appel du veuf s'ouvre devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. C'est le procès de la dernière chance pour le mari d'Isabelle Mosser.
Éric Mosser, clairement, il est accusé, mais il joue sa vie. Parce que s'il est condamné, c'est une lourde peine, ou c'est rien, il n'y a pas de juste milieu.
Lorsqu'il est entendu à la barre, l'homme ne laisse passer aucune émotion, même lorsqu'il parle de sa femme.
En même temps, c'est pas un chaleureux de fabrication, il est comme il est. Mais malgré cette froideur, voilà un accusé qui confiera devant ses juges, qui confiera aux jurés, qu'il avait une pensée quotidienne pour sa femme, qu'il aimait sa femme. Et il a ce côté très touchant, malgré ce côté un peu rustique.
Il n'arrive pas à convaincre, il est drapé dans sa dignité. Je suis un innocent, mais... Selon moi, ça sonne faux. Ça me paraît artificiel, ça me paraît un vernis.
5 ans après les faits, Karine Baudin, la sœur de la victime, et son mari sont toujours sous le coup de l'émotion.
Je pense à Isabelle tous les jours. J'ai pensé à elle chaque minute dans ce tribunal toute la semaine. Je lui parle, je lui envoie des messages, je lui demande de m'aider, je lui demande de nous guider, je lui demande... Isabelle est présente tous les jours de ma vie. Il faut qu'elle reste avec nous. Elle est là. Elle fait partie intégrante de la famille.
J'ai bien peur, comme l'année dernière, comme lors du premier procès, de devoir sortir comme je suis rentré. C'est-à-dire sans aucune explication de la part d'Éric Moser sur les faits.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve matérielle et pas d'aveu, pour l'avocat des parties civiles, tous les éléments réunis désignent Éric Moser comme étant le meurtrier d'Isabelle.
Voilà, vous avez les éléments sur la table. Vous les assemblez, c'est comme un puzzle. Et si quand vous assemblez ce puzzle, vous voyez le visage d'Éric Moser, vous le condamnez. Et si vous ne le voyez pas, si vous avez un doute, eh ben vous la quittez. Je pense que le faisceau d'indices réunis contre Éric Moser est suffisant pour le condamner.
Évidemment, Maître Dupont-Moretti, l'avocat d'Éric Moser, n'est pas du même avis. Car en France, lorsqu'un dossier ne contient aucune preuve formelle, cela devrait forcément profiter à l'accusé.
On n'a dans ce dossier rien de solide. Ce dossier, c'est une accumulation de petites suspicions. Il a menti, il a des maîtresses, il ne nous a pas dit la vérité. Mais tout ça, normalement, devrait ou pourrait ne pas suffire pour envoyer quelqu'un pour 20 ans en prison.
Au terme de 5 jours de procès, lorsque les jurés se retirent pour délibérer, le suspense est total.
Aujourd'hui, à cet instant où je vous parle, je suis sûr de rien. Et malheureusement, quel que soit le verdict, encore une fois, Isabelle ne reviendra pas. Donc je me satisferai de rien, quoi qu'il en soit.
Je n'ai aucune idée du verdict. Je suis dans le néant total. Je suis plus calme que l'an dernier, je suis moins apeurée, mais je n'ai aucune idée de l'orientation du verdict. Je suis perdue, je suis...
Après 4 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. La condamnation est la même qu'en première instance. Éric Moser est condamné à 20 ans de prison. Pour la famille d'Isabelle, cette condamnation est une délivrance.
Soulagé. Soulagé pour Clara. Merci papa, merci Isabelle. Enfin, ils peuvent partir en paix.
L'avocat d'Éric Moser, Maître Dupont-Moretti, a immédiatement déposé un pourvoi en cassation. Dans l'attente d'un jugement définitif, Éric Moser reste présumé innocent.